Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, continuons notre dialogue sur la liturgie qui avait si bien commencé. Et j'aimais bien ce que tu disais sur la liturgie fait de nous une offrande à Dieu. Et tu disais bien, de manière très juste, que le mouvement du corps, j'allais dire le mouvement, le geste des mains, qui est fondamental de la liturgie, ce n'est pas les mains tendues horizontalement comme si elles demandaient quelque chose, comme si on mendiait quelque chose, parce que Dieu veut donner, Dieu est celui qui vient, il attend que nous offrions, mais comme dans une amitié toute naturelle entre lui et nous, et nous disions que le geste de la liturgie qui est le plus fondamental au fond, et on le voit fait par les prêtres, c'est les mains élevées face au ciel, face à Dieu, qui reprennent aussi ce geste de Jésus sur la croix, les mains sur la croix. Je suis tendu vers Dieu, je ne suis pas un mendiant, même si j'aurais toutes les raisons de l'être. Nous sommes petits face à Dieu. Et pourtant, Dieu est celui qui se penche vers nous. C'était ce que nous disions. Je reprenais cette phrase du Magnificat. Hein. Il s'est penché sur son humble servante. Nous tournons vers Dieu parce que lui vient à nous. Et nous tournons vers Dieu, donc la liturgie, c'est vraiment le fait de ceux qui veulent se tourner vers leur Seigneur, qui vont au rendez-vous, qui simplement se tiennent prêts pour un rendez-vous, j'aime bien dire ça, aller à la messe le dimanche, quand on la voit comme une obligation, c'est terne, c'est triste. Quand on se dit c'est un rendez-vous, comme le rendez-vous des amoureux, oui. C'est tout à fait autre chose et on se fait accueillant avec nos mains, on se fait accueillant avec notre voix.
Oui. Et Église veut dire convocation, c'est-à-dire que c'est Dieu qui nous appelle, c'est lui qui a l'initiative, c'est quelque chose de très fort, que ces liturgies sont des points de rendez-vous avec celui qui nous appelle, il y a un cri en quelque sorte, et nous répondons à cet appel du Seigneur en nous rendant présents, non seulement par rapport au passé, mais au présent et à l'avenir. Et l'Eucharistie a été décrite ainsi par saint Augustin comme sacrement de la piété. Et c'est vrai qu'on pense à toute cette piété des siècles où des gens sont venus régulièrement à cette convocation que Dieu fait d'une manière régulière, au moins une fois par semaine, de manière dominicale, comme on dit, le jour du Seigneur, qui a pris ce nom même sous certains cieux. Par exemple, en Russie, c'est Kuriaké, c'est le nom du dimanche, comme pour nous, c'est Dominicus, c'est le jour du Seigneur. C'est très beau, hein, sacrement de la piété, mais aussi lien de la charité pour le présent. Nous renforçons nos liens d'amour avec Dieu et du coup nos liens d'amour entre nous, car la liturgie a un fruit évident de solidarité des hommes qui, dans ce cœur à cœur avec Dieu, reçoivent de lui la grâce de la charité, qui vont faire qu'ils vont s'aimer les uns les autres, et puis à venir, signe de l'unité, comme dit saint Augustin à propos de l'Eucharistie, c'est-à-dire il y a une unité qui se crée à l'avenir, alors certes il y a déjà les divisions à rejeter à cause de notre péché, mais il y a aussi l'unité à venir avec ceux qui sont déjà là-haut, qui sont déjà dans la Jérusalem céleste, et nous nous approchons jour après jour dans ces liturgies de cette Jérusalem céleste, et qui fait que passé, présent et avenir sont comme unifiés dans notre Eucharistie. Nous rentrons un peu dans l'éternité, et les églises très décorées nous aident à voir, à travers les représentations du Christ, la Vierge Marie, des saints, cette unité entre l'Église du ciel et l'Église de la terre. Je pense, ceux qui ont l'expérience des églises d'Orient, combien ces voûtes célestes, déjà toutes peintes d'icônes, toutes peintes de saints et de saintes, aident à rentrer dans ce mouvement du cœur qui se, en quelque sorte, se libère des choses du temporel, en quelque sorte, pour s'élever un peu vers la destination finale, qui se finalise finalement vers la destination finale et qui relativise les maux terrestres que nous avons tous, mais qui permet de les offrir de telle sorte qu'ils ne soient pas un poids excessif, mais qui soit un mouvement de tension vers cet au-delà qui nous attend.
Frère Édouard, donc quand tu parles ainsi, cela renvoie à ce que je disais au départ, c'est le rendez-vous amoureux qui se joue là. Le rendez-vous amoureux, dans mon esprit, a quelque chose de gratuit. Tu disais cependant à la fin que ça nous aide à sortir de ces maux, de ces malheurs, à les dépasser, ce qui des fois pourrait être moins gratuit. Je vois dans le catéchisme de l'Église catholique cette phrase, la liturgie, source de vie. Certains pourraient nous dire, mais finalement, quel goût avez-vous d'aller vers votre Dieu ? Est-ce que ce n'est pas par intérêt ? Et je trouve que c'est assez difficile, au fond, pour les chrétiens de se dire, j'y vais pas d'abord par obligation, je n'y vais pas par intérêt, j'y vais amoureusement, mais quelle est la gratuité ? Comment tenir ensemble la gratuité de l'acte de celui qui prie son Seigneur, qui s'offre à Dieu, et en même temps le fait que nous devons bien reconnaître que nous avons besoin de ce rendez-vous.
Oui, alors c'est vrai que ce sont des tensions un peu dialectiques que nous rencontrons souvent dans notre vie, entre le besoin de notre repos et la nécessité d'agir. Il y a sans cesse des tensions en nous, et la liturgie est un beau lieu, moi je trouve, de résolution de ces tensions, puisque il y a certainement rendez-vous amoureux, mais en même temps convocation de Dieu. Et donc là aussi, il y a une certaine tension. Et c'est vrai que comment le réaliser, ben je dirais en étant nourri, parce que les fruits de la liturgie, bien sûr, c'est la source et le sommet de toute notre vie chrétienne, et donc nous allons recevoir la cohésion du corps du Christ déjà entre chrétiens qui se rassemblent, la parole de Dieu, comme nous l'avons déjà médité pas mal de fois ensemble, qui est une nourriture. La parole de Dieu est, comme dit le Deutéronome, une nourriture, et Jésus lui-même le dira d'ailleurs dans ses luttes contre le démon qui essaye de le dévier, qu'il ne se nourrit que d'un seul pain, c'est le pain de la parole de Dieu. Et puis il y a le sacrifice lui-même qui est source de nourriture, l'Eucharistie est une nourriture, Jésus fait de son corps et de son sang une véritable nourriture. Donc il y a gradation dans la nourriture, nous recevons vraiment une nourriture et qui nous transforme, qui nous édifie, et nous en avons besoin. Nous avons l'humilité de dire que nous y allons, bien sûr, dans l'amour avec gratuité, mais que nous en recevons des fruits considérables et que Jésus a voulu nous gratifier de ces fruits en rentrant dans la participation de la prière du Christ, en nous préparant à la mission aussi auquel il veut nous envoyer, et en recevant un enseignement profond. Songeons à toute la première partie de la liturgie qui est constituée essentiellement d'enseignements. Enseignements d'abord de lecture et de prière, les psaumes, la première lecture, la deuxième, la troisième lecture. L'homélie est aussi une instruction qui est vraiment présence de Dieu qui nous parle à travers ce temps important de l'homélie. Et à travers tout cela, une mystagogie, dans le fond, où nous rentrons dans un enseignement des mystères chrétiens et qui nous conduit finalement à mieux les recevoir, à en être transformés. Donc il y a gratuité, c'est sûr, mais il y a en même temps fruit certain que Jésus nous assure, Jésus nous comble, dans le fond. On répond à cet appel, mais il nous comble.
Quand tu parles ici de la liturgie, on sent que tu te centres plus particulièrement sur la messe,
l'Eucharistie. Comme tu disais,
l'Eucharistie. Alors, ça n'enlève rien du reste de la liturgie, puisque l'Église a une richesse dans sa liturgie, la liturgie des heures, dont nous avons parlé dans une autre émission, du reste. Mais il est vrai que la liturgie de la messe et la célébration du Christ mort et ressuscité pour nous, le centre même de notre foi, et que tout est continuation de la messe, toute la liturgie est continuation de cette célébration
du Christ ressuscité. Le Concile Vatican II a cette belle expression où elle dit que l'Eucharistie est source et sommet. Alors c'est intéressant, source, c'est-à-dire à l'origine, parce que c'est la Pâque que Jésus a célébrée avant sa passion et sa résurrection, et en même temps sommet, d'où tout découle, tous les autres, même si la liturgie n'épuise pas tout l'agir ecclésial, ça c'est vrai qu'on est renvoyé en mission, d'ailleurs à la fin, le dernier mot de cette liturgie, c'est aller, mais bien sûr aller dans la paix, mais aller en même temps évangéliser, aller sur les places et sur les chemins, comme disait un chant que nous avons beaucoup utilisé dans notre jeunesse, pour annoncer cette bonne nouvelle à tous ceux qui ne la connaissent pas encore.
Oui, j'aime beaucoup dire que la messe, l'Eucharistie, a eu beaucoup de noms dans son histoire. La fraction du pain, la sainte liturgie, la synaxe.
Bon,
on va pas rentrer dans le détail, peut-être qu'on le fera après, c'est intéressant, je trouve.
Mais
c'est vrai que pour nous, dans le monde latin, nous utilisons le mot messe, et j'aime beaucoup dire que utiliser le mot messe, ça veut dire allez-vous-en. La messe, c'est allez-vous-en. Non pas qu'il n'est pas important d'être dans la célébration elle-même, mais que ça ne peut pas s'arrêter là. La messe se prolonge d'une certaine façon. Comme tu l'as dit, la liturgie n'épuise pas tout l'agir ecclésial, ce qu'on trouve dans le catéchisme.
Oui, et le catéchisme développe l'évangélisation, la foi, la conversion. Elle peut porter ses fruits dans la vie des fidèles, la vie nouvelle selon l'Esprit, l'engagement dans la mission de l'Église et le service de son unité. C'est très beau ce complément que l'on peut donner. Mmh. Et dans le fond, on sent bien que la liturgie est comme une colonne vertébrale. Une sorte d'axe qui nous tient et qui fait que toute la chair peut se développer autour de cette colonne vertébrale. Sinon, nous nous effondrions sans elle.
La liturgie est importante, mais l'objection de dire les chrétiens resteraient enfermés dans leurs églises ou leurs sacristies n'est pas juste. En tout cas, nous avons tout à faire pour qu'elle ne soit pas juste et pour pas... Comme nous disions, on peut chosifier la parole de Dieu, on peut aussi chosifier la liturgie.
On peut chosifier la liturgie.
Que Dieu nous en préserve.
Merci beaucoup.